Juste un instant. Je n'ai rien. Une motivation qui soit aussi pure que possible. Qui implique le bonheur du plus grand nombre. Pas seulement son propre bonheur, pas seulement sa propre libération. Donc, ressentez du fond du cœur, je suis assis, ici, maintenant. Je médite pour le bien des êtres. Essayez de concevoir cette pensée du plus profond de votre cœur. Sans laisser la moindre place pour une attitude égocentrique. Alors, en rapport à ce que l'on disait ce matin, juste pour se rappeler cette immense opportunité qu'est notre vie, qu'est chaque instant de notre vie, la brièveté de cette opportunité, cette vie qui est en train de se dissoudre, de fondre, comme on disait ce matin, comme la neige fond au soleil. À chaque seconde, à chaque instant, à chaque respiration. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'il est tellement important et tellement vital de pratiquer, de méditer et d'entraîner son esprit. Comme le disait Geshe-la, c'est si vous avez une médecine et si vous la laissez sur la table, en aucun cas, donc, il ne pourra y avoir un changement, une guérison. Et le pouvoir donc de la méditation est de réellement transformer notre esprit. Quand on dit, par exemple, restez concentré sur votre souffle et à chaque inspiration, à chaque expiration, prenez conscience que votre vie est en train de passer, de fondre, que cette opportunité est en train de finir. Alors, il va arriver à un moment donné où réellement votre respiration va devenir votre enseignement. Votre respiration va vous dire utilise chaque instant de ta vie pour accomplir ton idéal, pour accomplir l'essence de ton être, pour goûter à la nature véritable de ton être, afin de pouvoir l'offrir aux autres. À ce moment-là, l'enseignement la médecine est en train de nous guérir. Donc, comme on avait dit ce matin, d'essayer de rester conscient de cette impermanence. Donc, on se pose cette question. Pour moi, quelle saveur avait, par exemple, le café que j'ai bu? Est-ce que le café, le thé ou le pain que j'ai mangé ou ce que j'ai vu, est-ce que ça avait la saveur? Est-ce que ce café que j'ai bu avait-il la saveur du samsara ou avait-il la saveur de la libération? Qu'est-ce qui décide de cela? C'est combien je suis vigilant de mes actes et de leur implication. Combien je peux utiliser chaque instant de ma vie comme un acte aussi simple que de boire une tasse de thé, manger un bout de pain, marcher, regarder le ciel ou parler avec quelqu'un. Combien je suis capable d'habiter ma vie par autre chose. Que l'esprit halluciné et submergé par les poisons. Donc maintenant, pendant quelques instants, écoutez ce qu'est en train de vous dire votre respiration. Un peu plus proche de la mort. Un peu plus proche de la grande séparation, de la séparation définitive. À quoi bon t'efforcer à construire des arcs-en-ciel? À quoi bon t'attacher à ce qui apparaît pour un instant? Retire l'essence de ta vie. C'est une vie tellement précieuse. Qui te donne le choix maintenant, qui te donne le choix de créer les causes de l'éveil, de créer les causes des royaumes inférieurs. Rentrez totalement en vous. Jusqu'à entendre le pouvoir de votre respiration, de ce qu'elle vous dit. Moi qui recherche tellement à être reconnu, à être aimé, si je dois mourir aujourd'hui, si je dois mourir aujourd'hui, quelle utilité de tout cela? Même si le monde entier, même si tous les êtres du monde étaient mes amis et m'aimaient, s'il n'y a pas la richesse intérieure de la présence du Dharma, de la présence du Lama, quelle utilité? Puisque je devrais partir seul, avec pour seul compagnon mon esprit, qu'il soit développé, qu'il soit enrichi de ses qualités intérieures ou non. Quand on parle de renoncement, on parle aussi de renoncer aux méthodes qui nous trompent depuis les temps sans commencement. Nous essayons, coûte que coûte, d'avoir autant de plaisir, autant de bonheur qu'il est possible. Mais un peu de réflexion, un peu d'attention à nos comportements, à notre vie, nous montre facilement que nous sommes comme les maîtres nous disent, nous sommes un peu comme des aliénés. Nous utilisons continuellement la méthode qui nous trompe. Vous m'écoutez, les respirations continuent à s'écouler et nous allons donc définitivement vers la mort. Là, il y a une certitude. Toutes les autres choses qui nous entourent richesse, possession, amis, renommée. De tout cela, il n'y a aucune certitude, aucune essence véritable. La mort peut venir à chaque instant. Comme il est dit, on inspire, encore une fois, on expire, et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin d'être vieux, d'être malade, d'être sur un terrain, sur un champ de bataille, pas besoin d'être dans un pays rempli de maladies contagieuses. Il suffit de si peu de choses, avaler de travers, tomber de sa propre hauteur, avoir une épine, tellement de choses, ce corps est tellement fragile. Le karma d'une vie humaine qui s'épuise, un accident vasculaire, un arrêt du cœur. C'est ce qui se passe dans le monde à chaque instant. Mmh. la notion de renoncement est une question de priorité. De toutes ces choses que l'on construit continuellement, il n'y a aucune qui pourra nous aider au moment de la mort. Aucune. Si ce n'est véritablement que le dharma, que l'intégration, pas seulement le dharma intellectuel, mais l'intégration du dharma dans notre cœur, dans notre esprit. Si au moment de la mort, notre respiration est encore un enseignement, par exemple sur le Tonglen, sur l'aspect précieux des êtres, sur la présence du lama, sur le refuge, alors définitivement, nous pourrons mourir en paix, libre. Libre de la peur, libre de la souffrance. Dans la renonciation, il y a cette question fondamentale que l'on se pose. De toutes ces choses qui m'accaparent continuellement, du matin au soir, pour laquelle je dédie toute mon énergie, pour lesquelles je dédie tout cet immense potentiel qu'est l'existence humaine, qu'est notre précieuse existence humaine. Réellement, toutes ces choses, posons-nous la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cela est réellement la réponse à ma quête de bonheur? Et si cela était réellement le cas, alors tous les millionnaires, tous les gens qui sont tellement renommés dans le monde, tous les gens qui ont des milliers de fans, devrait être totalement submergé de bonheur. Est-ce que c'est réellement le cas? L'autre question, c'est ce que j'aime, ce que je désire, est-ce que cela est réellement bon pour moi? Bon, dans le sens au niveau humain, au niveau spirituel. Lama a donné un exemple il nous disait donc il a cette maladie du diabète. Il disait il y a des choses que j'aime, bon, des choses peut-être qui sont sucrées ou des choses comme ça, mais dans un sens, je sais que ces choses-là ne sont pas bonnes pour la santé, pour la longue vie, etc. De la même façon, toute l'énergie que l'on met pour obtenir certains plaisirs, certains bonheurs éphémères, est-ce que ces choses-là sont réellement bonnes pour nous? On devrait relier ces questions à notre vie de tous les jours. Et quand on est propulsé par le désir, juste d'avoir un moment, un seul moment, comme comme si vous écoutez, quand vous écoutez une cassette, vous mettez sur pause, comme une pause, et on se pose la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cela est réellement bon pour moi et pour les autres? Moi, dans le sens de mon idéal intérieur. C'est important, en même temps, donc, c'est important de prendre en compte la réponse qui émerge de ce questionnement. Notre renoncement doit être basé sur la compréhension. S'il y a un fruit qui est magnifique sur la table et qu'on a réellement ce désir de manger, de déguster ce fruit, on aime ça. Mais si l'on sait que ce fruit va nous rendre malade de quelque façon, à court terme ou à long terme, donc la sagesse va nous dire évite une telle situation. Et maintenant, on devrait se poser la question, est-ce que les plaisirs samsariques, est-ce qu'ils sont bons pour ma bonne santé intérieure, pour ma libération intérieure? Est-ce qu'ils amènent plus de confusion? Est-ce qu'ils amènent plus... Est-ce qu'ils génèrent en moi plus de confusion? Ou est-ce qu'ils génèrent en moi plus de sagesse? Plus d'esclavage? Plus de liberté? C'est à nous de comprendre et d'écouter la réponse que nous dit notre sagesse. Il n'y a rien à retirer des plaisirs samsariques qui ne font que de nous emprisonner dans la conception dualiste, dans l'ignorance, dans toujours un peu plus. Que nous devons abandonner. Donc, comme on disait ce matin, donc nous nous relions au maître spirituel du fond du cœur. Donc, nous lui faisons les requêtes de nous éclairer, de nous inspirer pour que cette sagesse intérieure se développe de plus en plus. Et de nous donner la force de prendre la décision intérieure, de prendre le chemin de la véritable guérison. Qui n'a rien à voir avec un renoncement austère, froid et effrayant, mais qui a plus à voir avec l'espace du non-attachement. Cela est plus possible si nous sommes habités par la présence bienveillante et chaleureuse du Maître. Donc nous lui demandons de nous inspirer et de rester présent en nous. Nous dédions l'énergie de cette pratique au bien des êtres, à tous ceux, toutes celles dans ce monde qui souffrent de l'ignorance, du désir, de l'attachement, de l'aversion, de la jalousie. De toutes ces souffrances invisibles qui maintiennent pourtant les êtres sensibles dans l'existence cyclique. De prendre sur nous cette détermination donc de vaincre ces poisons intérieurs dans le seul but de bénéficier les êtres. Puissions-nous le plus rapidement possible générer Bodhicitta, l'esprit d'éveil. S'il a déjà été généré, ne jamais, qu'il ne puisse ne jamais décroître, mais toujours s'accroître. Utiliser le moment du repas ou entre les sessions pour avoir ce questionnement intérieur. Et que ce questionnement amène toujours de l'espace intérieur, un espace entre vous et l'objet de désir, l'objet d'emprisonnement. Et de le faire avec un certain humour. L'impermanence aussi nous amène à comprendre que les choses ne sont pas si tragiques qu'elles peuvent sembler être parfois. Et comme elle peut nous amener à un certain sourire intérieur. Les choses sont là pour un instant et leur nature s'est passée, même si parfois elles semblent être tragiques. Là, on parle des choses qui nous arrivent à nous, on ne parle pas des choses qui arrivent aux autres. Si on voit quelqu'un souffrir, on ne va pas dire « Allez, t'inquiète pas, c'est impermanent, tout ça. » On peut dire, mais c'est l'attitude sera un peu différente quand même. Si vous voulez, c'est marqué 14 heures méditation. Peut-être on pourra faire plutôt peut-être question-réponse. Enfin, à vous de voir, parce que sinon on risque de faire le mantra que je connais bien. Vous savez, ce mantra, c'est... Donc, après le repas, c'est souvent ce qui arrive. Enfin, c'est ce qui m'arrive. Donc, on pourra faire question-réponse, si vous voulez. Mais si vous êtes en forme... on pourra faire une petite méditation. L'intérêt de faire question-réponse, c'est que vous pourrez étendre vos jambes, même pourquoi pas vous allonger. Non, c'est vrai, c'est pas un problème, parce qu'après, il va falloir assister au cours, à l'enseignement. Donc, c'est une proposition. Donc, manger quelques bouchées au moins, manger quelques bouchées avec la conscience de l'impermanence, c'est quelque chose qui est là, tout près, on peut l'utiliser. Vraiment, c'est important de décider que le Dharma soit vivant en nous. Ça, c'est la chose la plus importante. La connaissance est bien sûr est essentielle, mais l'exemple qu'on donne toujours, c'est si je vous parle pendant des heures et des heures de quelle est la composition du chocolat, si j'en ai la capacité, je pense que le mieux c'est que vous mangiez le chocolat. Ce sera, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est exactement ça avec la sagesse du Dharma. C'est, il est important d'écouter les enseignements, il est important d'étudier et de réfléchir. Mais à un moment donné, il faut, comme on dit, il faut en faire sa propriété. Enfin, il faut que le Dharma nous appartienne pour changer notre vie. Sinon, vous voyez, c'est, par exemple, moi je vous parle du Dharma, je connais rien au Dharma. Je vous parle du Dharma et si je rentre dans... enfin, peut-être, on pourra en parler peut-être plus tard, mais vous savez, cet aspect concret et solide des choses. Le renoncement nous amène à l'opposé, c'est que les choses ne sont pas si solides ni concrètes que ça. Mais si j'utilise le Dharma, la connaissance, bon, l'infime connaissance que j'ai du Dharma, pour ce que je fais, hein, bon, pour construire l'ego, alors c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est comme disait la Maïché, c'est garbage. Hein. C'est ça. Donc, ça, c'est pas du Dharma, je veux dire. Parler du Dharma n'est pas le Dharma. Vivre le Dharma, ça, c'est du Dharma. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'une grande connaissance. C'est juste se dire, maintenant, j'ai l'opportunité, en mangeant un bout de pain, juste de boire une tasse de thé, j'ai la capacité de vivre le Dharma. Si je fais juste, comme je fais Radio Blabla pour, vous savez, consolider l'ego, voilà un bon petit garçon, c'est un bon petit moine, ça c'est garbage, c'est franchement garbage. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Garbage, c'est de l'ordure. C'est ce que disait la magie. Donc, il faut à tout prix... et en même temps, ça demande d'être assez vigilant parce que l'ego a toujours tendance à vouloir se construire. C'est sa façon d'exister, je veux dire. Donc, il faut être vraiment vigilant, je veux dire. Et bon, éviter de tomber aussi après dans la trique et puis en train de se taper comme ça. Mais juste en étant conscient de... et je pense que l'essence de la renonciation, c'est ça. C'est renoncer à construire quelque chose. Construire un plaisir qui est là, un objet de plaisir. Construire là un plaisir qui va nous rendre totalement heureux pour toujours. Non, non. Il n'y a aucun phénomène qui pourra nous rendre définitivement heureux tant qu'on est dans l'existence cyclique. C'est impossible. C'est impossible. Et pareil, de la même façon, l'ego, c'est une grosse tromperie. Donc, si on utilise la sagesse du Dharma pour alimenter ça, eh bien, voilà. Vous savez ce qu'en dit la Maïchi, maintenant. Donc, il faut aller manger, maintenant. Vers 2h, on se voit.